Écrit d'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le premier mercredi de chaque mois sur Jet FM 91.2 à 17h30 et en rediffusion le troisième mercredi du mois, toujours sur Jet FM 91.2 et toujours à 17h30.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Valérie Hervé.
Ravie. Bonjour.
Hervé, désolée. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs et qui reçoit aujourd'hui Valérie Hervé. Donc merci d'être avec nous. On va parler ensemble de ton roman La Complice qui est paru en 2019 aux éditions
Hélène Jacob.
Avant cet ouvrage, tu as déjà commis, hein, comme on dit, un recueil de nouvelles qui est paru en 2014, hein, qui s'appelle Esquisse d'elle.
Oui, c'est ça. Oui.
Un recueil de poèmes paru en 2017 qui s'intitule Éphémère.
Oui.
Donc, de l'éclectisme dans l'écriture. Alors, c'est vrai que Valérie, tu es prof de français.
Oui, auprès enfin, formatrice.
Formatrice
plutôt.
En français auprès d'adultes. Donc, on a vite fait de faire le lien entre écriture, prof de français, ça va un peu de soi. Mais nous, on a quand même envie de poser notre petite question fétiche, c'est-à-dire que comment on arrive à l'écriture et puis quelle place l'écriture, en fait, dans ta vie, quoi.
Alors, c'est un peu compliqué, c'est vrai, comme question. Je dirais que l'écriture, ça, pour moi, en tout cas, ça remonte à très loin, peut-être à l'enfance. Moi, j'ai aimé les mots, l'imaginaire. Dès toute petite, quand j'ai commencé à lire, hein, j'ai adoré ça. Je me suis évadée dans la lecture beaucoup. Et puis l'écriture, c'est venu peu à peu. C'est vrai qu'à l'école, j'aimais beaucoup écrire déjà. J'aimais le français. Et puis j'ai commencé à écrire, je dirais, dans les années 2000 vraiment. Par la nouvelle, je suis venue à l'écriture par la nouvelle, par les récits courts, la poésie aussi un petit peu. Et puis après, ben, je me suis lancée dans le roman. J'ai créé un premier roman qui s'appelle Le Van. Et ça, c'est mon deuxième roman, en fait. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup.
Alors, dans ce deuxième roman, justement, nous suivons Estelle, la trentaine. Elle vit dans un studio avec son chat dans le centre de Nantes. C'est une jeune femme solitaire qui partage son temps entre le salon de coiffure où elle est employée, des visites à sa mère et la lecture. Elle se plonge dans un nouveau roman, La Complice. À sa grande stupeur, c'est sa propre vie que raconte le livre. Cette mise en abîme nous permet de découvrir le parcours de vie d'Estelle, ainsi que son désarroi, ses angoisses que provoque cette introspection. D'autre part, nous sommes comme Estelle. Nous aimerions savoir qui se cache derrière l'auteur du roman qu'elle est en train de lire. André nous lit un premier extrait.
Le soleil se perd sur la ligne d'horizon là-bas au loin, au-delà de la Loire, qui serpente entre les quais et s'élargit en vagues moutonneuses au milieu de l'océan. Le ciel sur Nantes s'assombrit peu à peu. Un rectangle de lumière s'éternise sur le rebord de la fenêtre entrebâillée. La chaleur moite de la mansarde s'évanouit pour laisser place à une fraîcheur plus supportable. Prise de vertige, Estelle se sent à bout de force, au bout du rouleau, au bout d'elle-même. L'ouvrage posé sur l'accoudoir du divan tombe avec un bruit sourd. Comme d'habitude, la jeune fille a commencé à lire, les pieds sous les fesses, un coussin dans le dos et un paquet de gâteaux à portée de main. Elle aime s'envelopper dans ce cocon douillet quand elle s'évade dans son activité préférée. Tranquille dans sa bulle protectrice, Estelle traverse les lieux, les personnages, sur le tapis volant du canapé. Les héros appartiennent à son univers et il la touche, la passionne. Il est rare qu'il l'indiffère. Pourtant, ce soir, il n'en est rien. Une terreur abyssale a remplacé le plaisir habituel. L'objet, un ovni imprévu et dévastateur, a explosé dans sa figure. L'histoire racontée est maudite, car on narre sa vie à travers le chapitre parcouru. Malheureusement, elle n'a pas écrit une page de ce récit et ne sait rien de l'auteur dont le nom s'inscrit en lettres scélérates sur la couverture, Martine Lesty. Son cœur bat trop vite, ses pulsations virillent dans les oreilles. Peu à peu, elle perd pied, aspirée dans un trou noir. Machinalement, elle regarde l'horloge murale fixée au-dessus de l'évier du coin cuisine. 22h, ce lundi 6 août, jour d'année, une date marquée au fer rouge sur le fil de son existence. À peine une demi-heure, 30 petites minutes ont bouleversé sa vie. Rien ne serait arrivé sans le livre, la complice.
Alors, comme vient de le lire André, là, ce morceau nous donne un peu l'impulsion du roman, hein, c'est-à-dire cette jeune fille qui découvre dans un livre qu'elle n'a pas écrit l'histoire de sa vie, en tout cas d'une partie de sa vie. Voilà. Mmh. Et dans l'écriture, c'est intéressant parce que je fais un parallèle avec, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, une chose sur le cyberharcèlement et le vocabulaire utilisé est quasiment le même. Il y a cette question du désarroi, cette question de la vie qui est bouleversée. Et moi, je me disais, c'est aussi très projectif. C'est-à-dire que quand on voit cette idée-là, on se projette bien, faire cette découverte. Donc l'idée, c'est comment ça arrive, ce genre d'idée d'un peu qu'impulse le roman.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de désarroi quand elle va lire. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est en fait ce double personnage. C'est Estelle qui lit le livre et c'est le livre qu'elle lit, c'est-à-dire c'est Clara. C'est un peu une double personnalité qui apparaît. On lit le livre avec elle, on vit, on découvre sa vie avec elle, quelque part, puisqu'elle redécouvre aussi sa vie. Et nous aussi, on est complices. En fait, on est aussi doublement complices puisqu'on est aussi lectrice ou lecteur du livre. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Alors, c'est vrai qu'elle va passer par différentes émotions, différents sentiments, puisque ça va la bouleverser. Elle lit sa vie et elle n'est pas l'auteur. Et les détails deviennent de plus en plus troublants. Et comment elle va faire avec tout ça? Comment elle va s'en sortir avec tout ça? Et puis, c'est aussi un livre sur la lecture, parce que quand on lit, on se retrouve souvent dans un personnage, par exemple. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, la projection du lecteur dans un livre. Quand on lit, surtout quand on aime lire, je crois que c'est ce qu'on cherche aussi, à se trouver ou peut-être à se retrouver dans un livre.
Merci beaucoup. Une autre question, alors c'est aussi troublant hein, quand on lit le livre, ça se passe dans des endroits qu'on connaît, il se trouve que nous sommes nantais. La question c'est un peu... Alors, pourquoi le choix de Nantes? Et puis aussi particulièrement ce quartier de Malakoff,
oui.
Puisque des quartiers dits populaires, hein, il en existe plein sur Nantes. Donc on a fait l'hypothèse que Malakoff avait une place particulière, une caractéristique particulière pour planter le décor du livre dans ce cadre-là.
Alors, il y a plusieurs endroits de Nantes. D'abord parce que Nantes, moi j'y ai vécu pendant 20 ans. Puis bon, c'est un petit peu ma ville. Hein. Puis c'est un personnage, Nantes. C'est un personnage réel et imaginaire. Je dirais que c'est un petit peu mon Nantes, je pense, qui est transposé. Malakoff, j'y ai travaillé pendant un petit moment. Donc là aussi, je connais un petit peu ce quartier. Puis je voulais des contrastes. Hein. Elle habite au-dessus de... enfin, dans la rue de Bré, au-dessus de Notre-Dame du Bon Port, que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes monuments préférés à Nantes. Je voulais des contrastes. Hein. Nantes, c'est une ville de contrastes aussi. La Loire qui la traverse. Enfin, il y a plein de choses à Nantes. C'est vrai que j'aurais pu... Malakoff, ça m'a semblé important de créer ce décor-là. Alors, par rapport aussi à ses rencontres, à ses copains, à ce qu'elle va vivre, hein, un petit peu autour de la délinquance. Et je voulais que, aussi qu'elle va sortir de ça et toujours être attachée quand même à Malakoff, puisque sa mère y est toujours. Mais bon, je ne sais pas trop comment expliquer. C'est difficile hein, d'expliquer le choix d'un endroit. Mais Malakoff, c'est un lieu que j'aime beaucoup aussi à Nantes. Je trouve que c'est un lieu, là aussi, la Loire est là, quoi. Il y a les tours, mais il y a la Loire, il y a la ville. Il y a la ville qui pulse, qui respire là. Peut-être autant que dans le centre-ville.
Enfin, en tout cas, que ce soit dans les descriptions du centre-ville ou de Malakoff, je trouve qu'on retrouve bien l'atmosphère de toute manière dans les,
ah, merci.
Dans les pages.
Ouais, ouais. Ouais. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était souvent, quand je le relis maintenant, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas des clichés un peu là-dedans ? Mais Nantes, c'est ça aussi. C'est une ville... bon, j'ai mis l'éléphant, j'aime bien... Je suis quelqu'un qui aime bien marcher dans Nantes, enfin qui aimait bien marcher dans Nantes plutôt. Donc tous ces lieux-là, c'est aussi des lieux qu'on traverse. Voilà.
Merci beaucoup.
Bien, alors, André, tu vas nous lire un deuxième extrait.
Dans les années 2000, et peut-être bien avant, la cité Malakoff restait une enclave perdue à éviter, une zone de non-droit. Les barres d'immeubles n'avaient pas bonne presse et souvent, les gazettes nantaises déroulaient une même litanie de faits divers. Les agressions aux arrêts de bus, les trafics en tout genre. Certains commerces fermaient leur officine et les habitants, pour la plupart, ne désiraient que quitter le lieu pour s'installer ailleurs, dans des rues tranquilles débarrassées de la violence. Ici, les jeunes bourgeois des quartiers huppés venaient faire provision de drogue. Ils achetaient des barrettes de shit, des sachets de coke. Des bandes de dealers, parfois mineurs, se partageaient différentes zones délimitées par les parkings qui entouraient les tours. Ils instauraient leurs lois. Pour beaucoup de parents, l'horizon de leurs enfants semblait bouché et ils espéraient des études brillantes pour éviter à leur progéniture l'inscription à Pôle emploi, le chômage, cancer incurable, gangrenait cette partie de la ville. Adolescente, Clara était élève au lycée La Collinière. Elle suivait sans grande conviction une seconde littéraire. Obtenir son baccalauréat ne la motivait guère. Seule la professeure de français pouvait la captiver pendant une ou deux heures, les enseignants l'ennuyant profondément. L'adolescente ne se liait pas avec ses camarades. Elle se sentait étrangère parmi les garçons et les filles nantaises. Elle venait d'un milieu différent. Les pauvres, les paumés, de l'autre côté de la voie ferrée, où ceux de sa classe n'osaient pas poser les pieds. La réputation de la cité la précédait, même si elle ne la criait pas sur les toits. La lycéenne se moquait bien de connaître ce que l'on pouvait médire sur son compte, son univers. C'était la bande. Aïcha, Clara, Mouloud, Stéphane et bien sûr Jean. Ils demeuraient les cinq doigts d'une même main, des inséparables. Ils se rencontraient à la maison de quartier, sur les estrades du terrain de football, à l'abri des regards indiscrets.
Alors, pour la pause musicale, Valeria Hervy a choisi Heart of Gold de Neil Young. JetFM 91.2 dans l'émission Écrit d'ici. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Valérie Hervy pour son roman La Complice.
Alors après cette agréable pause musicale, une autre question nous a intéressés, c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure effectivement le double personnage, la projection dans la lecture. Et en même temps, le choix du personnage est assez typé, on va dire. Hein. C'est une adolescente qui a eu affaire à la délinquance, voilà, qui est en réinsertion. Et en fait, on pourrait lire ça un peu comme une espèce de chronique sociale, parce que les mécanismes sont très, très bien décrits. Hein, sur, quand cette adolescente parle, ou cette jeune femme parle, elle explique bien tous les rouages qui la conduisent à poser les actes ou à être complice des actes dont elle parle. Et voilà, est-ce que c'est... pourquoi ce choix, en fait, hein ? On a plein de pourquoi, finalement.
C'est difficile parce que on est construit... c'est une histoire, en fait. Hein, c'est une histoire de vie, de jeune vie. Mais c'est un roman. Donc, c'est vrai que ce qui m'intéressait là-dedans... alors, c'est vrai qu'elle est complice. Elle est pleine de remords aussi par la suite. Mais c'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir, qui veut s'offrir de nouvelles chances, je pense, par rapport à la vie qu'elle a menée. Et puis, qui trouve, par exemple, dans la lecture, peut-être aussi une nouvelle voie. Et ça, souvent, je pense que la lecture peut aider beaucoup de gens. Et c'est ce que j'ai aussi voulu dire à travers ça, parce que c'est quelqu'un qui lit et qui lit beaucoup. Bon, alors, elle a toutes les rencontres qui vont l'aider aussi dans le roman. Cette coiffeuse qui va l'embaucher, sa mère qui est toujours là et toujours présente. Ce jeune libraire qui va aussi l'aider. Ses amis, ses anciens amis qui sont là aussi. Mais je pense que la lecture l'aide, quoi, en fait. Même si cette lecture s'avère... parfaitement douloureuse et horrible, hein, puisqu'il s'agit d'un harcèlement, voire, j'emploie les termes dans le livre, même d'une souffrance terrible, hein, de lire, d'avoir sa vie volée, quoi, de voir sa vie volée dans un livre. Mais ça, quelque part, il va y avoir une forme de rédemption à la fin, pour elle, en tout cas.
Voilà. Ouais, la lecture, moi, elle me semblait aussi que c'était un refuge aussi. Oui. Parce qu'elle se coupe quand même, de par son passé, elle se coupe quand même de toutes ses connaissances, c'est volontaire. Et elle ne cherche pas tellement à en faire d'autres. Par contre, c'est dans la lecture qu'elle trouve sa raison de vivre, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas...
Oui, oui. Après, c'est ça qui m'intéresse aussi. Enfin, je pense quand j'écris, c'est le lecteur qui apporte aussi un refuge. La lecture, c'est plein de choses, je crois. Et le lecteur, d'ailleurs, qui le lit, le livre, je pense qu'il a sa propre, comment dire, sa propre idée du personnage. Et c'est tant mieux. Moi, le lecteur, pour moi, un lecteur, ça termine le livre. C'est aussi quelqu'un qui participe au livre, complètement.
Ça, c'est sûr qu'on a tous notre vision, ouais, hein, c'est sûr. Oui, mais quand elle était adolescente, par contre, son refuge, c'était la bande, ses copains. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'elle est arrivée à faire des choses, à devenir complice, disons.
Voilà,
c'était la bande, les copains, ce qu'ils faisaient, son amour.
Oui.
Enfin, c'est l'évolution aussi d'une vie.
C'est une histoire de vie d'une jeune vie qui va basculer un moment, mais qui va aussi s'en sortir, quoi. Voilà.
Avec une belle description des ingrédients, je trouve, en tout cas, c'est-à-dire une passion, la lecture, quelque chose qui nous aide. Ça casse aussi un peu les clichés. Hein. Vous la faites arriver d'un quartier, vous parliez de réputation tout à l'heure, le lycée de la Collinière. C'est aussi des quartiers auxquels on ne prête pas forcément de l'intérêt pour la lecture de manière un peu générale. Et puis surtout un environnement qui est là. Hein. Mmh. Des copains, une mère, une coiffeuse qui l'embauche, une rencontre. Donc en ce sens, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez pointu sur qu'est-ce qui permet éventuellement une réinsertion au-delà du « quand on veut, on peut hein. ». Je trouvais ça fort intéressant, oui. En tout cas.
Oui. Puis bon, je pense aussi qu'il y a chez le personnage une part de mystère, aussi une énergie qu'on peut lui attribuer pour s'en sortir, quoi. Bien sûr.
Alors, André, pour une dernière lecture.
Vers 23 heures, les lampadaires de la rue des Cyprès s'éteignirent peu à peu. Le quartier plongea dans l'obscurité. De la buée dessinait des auréoles sur les fenêtres de la voiture. Régulièrement, la jeune fille ouvrait la portière pour chasser les volutes de cigarettes allumées par Jean. Nerveux, il fumait sans discontinuer. Après avoir regardé sa montre, il décida du départ. Ils étaient habillés de couleurs sombres pour se fondre dans le noir. Ils sortirent de la Clio, longèrent la rue. Il ouvrit le verrou du portail en tournant avec ses doigts agiles une grosse épingle. Ils contournèrent la maison, se faufilant entre les chaînes du jardin. Jean réussit à enclencher la serrure de la véranda avec un petit tournevis. Aucune alarme ne se mit en marche pendant l'opération. Leur effraction commençait sans anicroche. Ils pénétrèrent dans la maison silencieuse. Tous deux continuaient leur progression à la lueur de leurs torches. En ouvrant les buffets, ils tombaient sur une vaisselle quelconque dépareillée. Les assiettes étaient éraillées, éraflées et les couverts en inox n'avaient aucune valeur. Au-dessus de la bibliothèque, une aquarelle de la plage Benoît était accrochée. Clara la regarda. « Cette croûte ne vaut rien. C'est le travail d'un peintre du dimanche. » Jean la poussa sans ménagement et découpa la toile avec un cutter avant de la glisser dans son sac. La jeune fille braqua sa lampe sur lui. « Il n'y a rien ici, que dalle. Ils cachent leur fortune chez eux. Ils ne sont pas fous. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter pour une fois. » « Tais-toi, on fouille les chambres à l'étage, on va sûrement trouver. » Clara soupira. Elle souhaitait quitter la villa rapidement. Elle se savait prise au piège. Rien ici ne lui inspirait confiance. Elle voyait un faisceau de menaces qui les enrobait. La jeune fille abandonna l'idée de chercher. « C'est le bide total, on doit partir maintenant. » Jean ne disait rien. Il paraissait paralysé. Ses mâchoires, comprimées, crispées, laissaient deviner la fureur sourde qui l'habitait. Soudain, une sonnerie venue d'en bas retentit avec un bruit strident et la porte de l'entrée s'ouvrit en grinçant. Les lustres s'allumèrent les uns après les autres. « Y a quelqu'un ?» Jean plaqua sa peau moite sur la bouche de Clara et murmura à son oreille « Tais-toi ! Tu restes ici !» « J'y vais, je m'en occupe, je règle le problème. » Elle n'eut pas le temps de lui répondre. Il avait disparu dans l'angle de l'escalier. Il descendait lentement, cherchant dans ses poches l'arme qui lui avait glissée.
Alors, on arrive bientôt à la fin.
Oui.
Donc, avant de nous quitter, est-ce que tu as quelque chose sur le feu, là donc...
Oui,
Des nouvelles, un roman, enfin, quelque chose.
Peut-être pas un roman, mais bon, j'ai des nouveaux projets qui vont peut-être se mettre en place avant la fin de l'année. Je vais voir.
D'accord.
C'est un peu compliqué parce que... Il faut les mettre en place et puis après ben il y a tout le travail à faire quoi. Mais ouais. J'ai des nouveaux projets, oui.
D'accord, bah tu reviendras nous voir.
Bien sûr, avec plaisir.
Voilà. Alors donc en tout cas merci d'être venu. Alors pour les amateurs de poésie, je voudrais signaler qu'il y a une exposition autour de René Guicadou à la médiathèque Jacques Demy jusqu'au 7 mai. Un petit peu plus loin, il y a la fête du livre à Becherel, la cité du livre, oui, du 16 au 18 avril. Et je ne sais pas si c'est plus loin, mais enfin bon, à Quiberon, il y a aussi une fête du livre, 30 avril, 1er mai. Donc en fait, un peu partout, là, il y a des fêtes du livre, donc renseignez-vous sur Internet. Pour nous quitter, Valérie a choisi la nocturne numéro 2 de Frédéric Chopin.